Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 août 2022. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le lancement du satellite iranien Khayyam sous le feu des projecteurs du monde. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le lancement du satellite Khayyam, un autre chapitre d'or dans l'histoire des réalisations scientifiques de l'Iran, déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne. Gaza, manifestation anti-israélienne à Téhéran en solidarité avec les Palestiniens. Et puis une voiture fabriquée conjointement par l'Iran, la Chine et la Russie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le lancement du satellite Khayyam, un autre chapitre d'or dans l'histoire des réalisations scientifiques de l'Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani. Le lancement du satellite Khayyam dans l'espace est la dernière réalisation de l'aérospatiale des scientifiques iraniens à des fins pacifiques et un autre chapitre d'or dans l'histoire des réalisations scientifiques de l'Iran islamique. La brillante voie du progrès scientifique et technologique de la République islamique d'Iran se poursuit malgré les sanctions et la pression maximale des ennemis, a écrit dans un tweet le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le satellite iranien Khayyam a été lancé en orbite par une fusée Soyuz le mardi 9 août à 10h22 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Ce satellite est guidé et contrôlé par des stations situées en Iran. Tous les ordres liés à son contrôle et à son fonctionnement seront exécutés et émis immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés dans les bases spatiales appartenant au ministère des Communications de notre pays, a précisé dimanche 7 août les relations publiques de l'Organisation spatiale iranienne. Un groupe de militants iraniens des droits de l'homme s'est réuni dans la capitale Téhéran pour condamner la récente agression d'Israël contre la bande de Gaza assiégée depuis 2007. De nombreux manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés mardi soir 9 août 2022 sur la place de la Palestine à Téhéran, visant à condamner la nouvelle agression meurtrière du régime usurpateur sioniste contre le peuple opprimé de Gaza. Une trêve précaire est entrée en vigueur dimanche soir, 7 août. Les combats ont été déclenchés vendredi à Gaza par une frappe israélienne où l'un des chefs du mouvement de la résistance palestinienne a été tué en martyr. Aujourd'hui, Israël projette un infanticide à grande échelle sur la bande de Gaza, non seulement par ses raids systématiques et aveugles, mais aussi en privant les habitants assiégés d'accès aux services élémentaires et humanitaires. Les organisations humanitaires internationales se disent préoccupées par l'acharnement meurtrier du gouvernement israélien contre les habitants de Gaza. Face au drame, elles restent pourtant les bras croisés. Une voiture fabriquée conjointement par l'Iran, la Chine et la Russie, le secrétaire de l'Association iranienne de coordination de l'industrie automobile, soulignant la très bonne opportunité de présence des constructeurs automobiles et des pièces détachées iraniens sur le marché russe, a suggéré qu'une plateforme automobile commune soit définie et conçue entre l'Iran, la Russie et la Chine. Dans une interview accordée au journaliste économique de l'IRNA, Ahmad Ghalabani, se référant à la très bonne opportunité pour la présence des constructeurs automobiles iraniens et des pièces détachées sur le marché russe, a ajouté « Les constructeurs automobiles mondiaux conçoivent des plateformes communes afin de réduire les coûts de production comme autant que possible, car investir séparément dans le moteur, la boîte de vitesse, l'essieu, etc. nécessitent beaucoup d'argent. » Insistant sur l'importance des coopérations industrielles irano-russo-chinoises, ce responsable iranien a ajouté « Si les principaux constructeurs automobiles iraniens, en collaboration avec les constructeurs automobiles chinois et russes, peuvent concevoir une plateforme commune, ils seront en mesure de produire différentes voitures avec différents modèles sur le marché de ces pays, ainsi que les pays de la région et leurs voisins, qui comprend une population très élevée. » La réalisation de ce projet dépend des négociations, des bonnes intentions des parties et de l'acceptation mutuelle. Et il est nécessaire de trouver des constructeurs automobiles iraniens, chinois et russes compétents et engagés qui veulent accomplir cette tâche, a ponctué Ghalabani. Et un mot du sport, trois arbitres iraniens jugent des matchs de snooker du championnat du monde à Bucarest. Trois arbitres iraniens jugeront dans le championnat du monde du snooker à Bucarest, à l'invitation de la Fédération mondiale des sports du billard. Trois arbitres de notre pays, dont une dame, jugeront dans les compétitions du snooker des niveaux de base de championnat du monde. Il s'agit de Samira Santi, Alireza Sispour et Kazem Taran. Ils jugeront dans les compétitions du championnat du monde du snooker à l'invitation de la Fédération mondiale des sports de billard, les tournois du snooker, des championnats du monde, des moins de 16 ans, des moins de 18 ans et des moins de 21 ans seront organisés par la Roumanie et se tiendront à Bucarest. Cette compétition débutera le 19 août. Les arbitres iraniens partent pour Bucarest 3 jours avant le début de la compétition. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique qui a pour titre « Le lancement du satellite iranien Khayyam sous le feu des projecteurs du monde ». Merci de votre attention et bonne lecture sur notre site frenchpresstv.ir. Le lancement du satellite iranien Khayyam sous le feu des projecteurs du monde. Le lancement réussi du satellite iranien Khayyam et les réalisations de la République islamique d'Iran enregistrées dans ce domaine a fait beaucoup de bruit dans les médias étrangers. Le satellite iranien Khayyam a été lancé en orbite par une fusée Soyouz le mardi 9 août à 10h22, heure locale, depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan. Ce satellite est guidé et contrôlé par des stations situées en Iran. L'Iran a déjà reçu les premières données de télémétrie de son satellite Rayam via ses stations au sol de l'agence spatiale iranienne. La chaîne de télévision émirati Al Ain a écrit dans un rapport émis mardi qu'un lanceur russe, Soyouz 2IB, a lancé avec succès le satellite iranien Rayam depuis Baïkonour au Kazakhstan. Se référant au lancement réussi du satellite iranien Rayam, la chaîne de télévision israélienne I-24 a rapporté qu'une fusée russe avait placé avec succès un satellite spatial iranien en orbite mardi. Comme d'habitude et sans surprise, cette chaîne de télévision sioniste a continué à harceler l'opinion publique dans l'objectif de minimiser à des fins iranophobes les réalisations scientifiques de la République islamique et à répéter les allégations avancées par Washington Post sur une prétendue portée militaire du projet spatial iranien au profit des Russes. Jusqu'à présent, on craint que ce satellite n'aide la Russie dans la guerre en Ukraine. On craint également que ce projet fournisse également à l'Iran des capacités sans précédent dans le domaine de la surveillance de cibles militaires contre Israël et au Moyen-Orient, a lancé la chaîne de télévision israélienne. En outre, le portail d'information émirati Aram News a rapporté que Rayam est le satellite le plus récent et le plus avancé de la famille iranienne de satellites qui a été lancé dans l'espace comme les précédents satellites Omid, Sina, Misba et Nour. La chaîne turque TRT a également rapporté qu'en dépit des craintes occidentales que le satellite iranien Rayam aide la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, ainsi que de fournir à l'Iran la capacité de surveiller les bases militaires dans la région, le lanceur russe Soyouz a lancé avec succès un satellite spatial iranien en orbite. Alors que Moscou et Téhéran cherchent à forger des liens plus étroits face aux sanctions occidentales, une fusée russe a lancé avec succès un satellite iranien en orbite, a toujours apporté la chaîne. Le portail d'information de Londres sur le Moyen-Orient se penche également sur le lancement réussi du satellite iranien Rayam et la coopération entre l'Iran et la Russie dans ce domaine, ajoutant que le satellite iranien a été lancé en orbite à une distance de 500 km de la surface de la Terre. En outre, le portail d'information Al-Khalij Al-Jadid, faisant référence au lancement réussi du satellite Rayam, a écrit « À un moment où Moscou et Téhéran cherchent à forger une relation plus étroite au milieu des sanctions occidentales, l'agence spatiale iranienne a reçu les premières données du satellite Rayam qui a été lancé hier, comme prévu, par une fusée russe depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'armée syrienne a ciblé avec un missile les positions turques dans le nord-ouest de la Syrie. Et bien sûr, cette région qui était soumise depuis 2 ans à un cessez-le-feu, et la situation reste et demeure très névralgique dans cette situation. Alors d'une part, La Turquie essaie de renforcer sa position dans cette région et de l'autre. L'armée turque menace directement les Kurdes de la Syrie de lancer une opération militaire contre ces derniers, alors que la Russie et l'Iran sont extrêmement opposés à ces opérations, bien sûr. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les combats font rage contre le sultan. Deux semaines après le sommet de Téhéran, où Erdogan a été sommé d'éviter tout agissement dans le nord de la Syrie, l'armée syrienne a intensifié son action dans le nord. Le 4 août, l'armée syrienne a ciblé avec un missile guidé anti-char une excavatrice de l'armée turque qui construisait des fortifications près de la ville d'Afès, située à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le site web Soudfront. Selon certaines sources d'information, la frappe de missile a détruit l'excavatrice. La position à Afès n'est que l'une des dizaines de sites militaires turcs installés à Idlib. Malgré le déploiement de troupes turques, la région est dirigée par les terroristes Hayat Tahrir al-Sham, affiliés à Al-Qaïda. Idlib est soumis à un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie il y a plus de 2 ans. Cependant, la situation dans la région reste tendue. La veille encore, 4 terroristes membres du HTC, les terroristes Hayat Tahrir al-Sham, avaient été tués et 8 autres blessés lorsque leur véhicule avait été pris pour cible par des militaires syriens. L'attaque était une riposte à une récente violation du cessez-le-feu. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les récentes attaques de missiles contre des positions de l'armée turque à Azaz. Selon le site web militaire russe Aviapro, les positions de l'armée turque, situées non loin de la ville d'Azaz, dans le nord-ouest d'Alep, ont essuyé des tirs de missiles. Les attaques de missiles ont infligé des dommages aux positions de l'armée turque et des terroristes affiliés dans la ville syrienne d'Azaz. Les experts estiment que soit des groupes de la résistance, soit des éléments kurdes pourraient être derrière des attaques contre les troupes turques. Auparavant, la Turquie avait menacé de lancer une opération militaire contre les Kurdes en Syrie. Cette décision d'Ankara s'est heurtée à l'opposition ferme de la Russie et de l'Iran. Les tensions dans le nord de la Syrie ont commencé en mai lorsque l'armée turque et ses mercenaires ont commencé à se préparer à lancer une nouvelle opération contre les FTS. Tal Rifat et la ville voisine de Manbij ont tous deux été désignés par Erdogan comme les principales cibles de toute nouvelle opération militaire turque en Syrie. L'armée syrienne et la police militaire russe opèrent dans les deux villes. La Turquie est apparemment toujours déterminée à monter en puissance contre les FTS, ce qui ne fera qu'aggraver la situation humanitaire dans le nord de la Syrie.
Voilà, on a vu en détail l'offensive syrienne contre les positions turques dans le nord-ouest de la Syrie. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour et merci.
Bonjour à vous, à votre équipe et surtout à Mme Midani, que j'ai toujours grand plaisir à retrouver dans le débat.
Justement, Aïssar Midani, franco-syrienne, experte des questions internationales qui est avec nous depuis Damas. Mme Midani, bonjour. Voilà, alors ma première question va s'adresser à M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, et bien sûr, l'armée syrienne voit d'un très mauvais œil le renforcement des positions turques dans le nord-ouest de son pays. C'est pour ça que Assad a décidé de passer à l'offensive. Que pensez-vous?
On assiste à nouveau à une manifestation de l'opportunisme d'Erdogan et à ce qu'on appelle en France la duplicité levantine. C'est comme ça qu'on appelait la politique turque du sultan turc au XIXe siècle et au XXe siècle. Et c'est la même chose dans le cas d'Erdogan. Erdogan profite qu'actuellement il a de bons rapports avec la Russie dans le cadre du dossier ukrainien. Mais en Ukraine, il pratique une politique de grand écart. Il fournit des drones à l'Ukraine et en même temps, il aide à contourner les sanctions économiques américaines entre les Européens et la Russie. Il manifeste la même duplicité dans le cadre de deux autres dossiers. En Syrie et en Irak, oui, évidemment, il manifeste une volonté de redévelopper les hostilités, mais également en Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan, à l'aide des drones turcs, s'est à nouveau attaqué aux positions de la République arménienne du Haut-Karabakh. C'est une politique, évidemment, qui ne conduira pas loin et qui, en particulier, indispose Damas et Téhéran.
Oui. Merci, M. Michel, pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Aïssar Midani, qui est avec nous depuis Damas. Madame Midani, quelle est votre introduction à cet égard? Malheureusement, nous avons un problème technique depuis Damas. Je vais m'adresser à nouveau à M. Luc Michel. Alors, vous dites, M. Michel, que cette politique ne mènera à rien. Pourquoi vous dites ça?
Ben, écoutez, parce que la politique du grand écart, elle ne peut conduire qu'à mécontenter tout le monde. Erdogan va mécontenter, évidemment, les Américains, puisqu'il se prend directement aux positions de leurs alliés kurdes. Et la présence américaine en Syrie, elle dépend à la fois de la Turquie, mais aussi des Kurdes. Mais elle va également mécontenter les Ukrainiens, puisque vous savez que Zelensky est caractérisé par une politique intransigeante et arrogante. Et évidemment que le ton qu'il emploie ne peut que mal tourner vis-à-vis de la Turquie. Je pense donc que les positions opportunistes de la Turquie ne conduiront qu'à une catastrophe géopolitique pour l'État turc. Tout cela se fait dans un contexte où la Turquie a évidemment besoin de la Russie pour contourner la catastrophe économique dans laquelle est l'économie turque. Tout cela ne peut conduire évidemment qu'à une catastrophe pour Ankara dans tous les dossiers dans lesquels Ankara est impliqué, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Asie centrale avec l'Azerbaïdjan, que ce soit avec la Syrie ou l'Irak.
Tout de même, si ce n'est déjà fait, M. Luc Michel, je m'adresserai encore à vous, mais vous savez, même si la région est soumise à un cessez-le-feu depuis 2 ans, mais la situation reste tendue. Justement, la Turquie, l'un des dossiers de la Turquie que vous avez cité, bien sûr, c'est de menacer les Kurdes de la Syrie, alors que l'Iran et la Russie, justement, sont extrêmement opposés à ces opérations.
Ben écoutez, je vais expliquer. Le commentaire sur lequel Erdogan fait le grand écart, il n'est pas de moi. Il est de l'hebdomadaire français Le Point, de leurs experts. Mais c'est exact. C'est-à-dire qu'en faisant le grand écart, Erdogan veut à la fois contenter les Ukrainiens et contenter Vladimir Poutine. Il veut à la fois contenter les Américains et les Ukrainiens. Il veut à la fois contenter les Américains et contenter les Syriens et contenter les Iraniens. C'est une position qui, à long terme, est intenable. Ça peut marcher quelque temps dans le cas de ce qu'on appelle des coups de poker géopolitiques, mais ça ne peut pas être des positions qui sont tenables longtemps. À faire des positions de grand écart, évidemment, vous mécontentez toutes les parties. C'est mon analyse de la situation.
Absolument. Aïssar Midani.
Oui,
merci d'être avec nous.
Vous m'entendez maintenant?
Oui, absolument, oui, absolument. D'accord. Alors, le renforcement des positions turques dans le nord-ouest et de la Syrie, Assad voit ça d'un très, très mauvais œil. C'est pour ça qu'il a décidé de passer à l'offensive très sérieuse, justement à cibler avec un missile les positions turques.
Absolument. Alors, effectivement, depuis quelques années, là, Erdogan joue sur la situation au nord de la Syrie, aussi bien à Idlib, Afrin, le nord de la Syrie, dans le côté aussi est, prétendant toujours qu'il s'agit d'épargner ou d'épargner à la Turquie les agressions kurdes du PKK prétendument à leurs frontières. en fait, et il déploie sans arrêt des agressions, il déploie des armes, il utilise les terroristes de Tahrir al-Sham, il les arme, il les dirige, etc., depuis quelques années. Et puis, effectivement, la patience stratégique de la Syrie a laissé beaucoup de place, effectivement, à des accords avec la Russie, les accords concernant les zones d'apaisement, les retraits, de manière à éviter à ce qu'il y ait vraiment des confrontations importantes dans les villes qui sont peuplées, et éviter aussi la destruction de l'infrastructure du pays. Or, effectivement, la Turquie a profité de ces, Erdogan a profité de cette situation de patience. Il a multiplié les bases militaires, des bases qu'il appelle points de surveillance militaire, mais qui ne sont rien d'autre que des bases qui permettent de mieux coopérer avec les terroristes, de leur donner des indications importantes pour la destruction de l'infrastructure syrienne, entre la destruction des routes, la destruction des échangeurs, la destruction des ponts aussi et des passages. L'accord qui avait eu lieu en 2019, en fait, concernant, d'ailleurs, sous l'égide aussi de la Russie, concernant le dégagement de l'autoroute M4 qui relie Idlib à Latakia et à Alep, et puis de l'autre côté, du côté est, elle relie aussi Latakia à Deir Zor réellement, en passant justement par Idlib. Or, cet accord, il est jusqu'à présent lettre morte, parce qu'il devait être mis sous le contrôle de l'État syrien, que les Turcs devaient dégager 6 km de part et d'autre de cette autoroute et permettre effectivement la circulation des vivres et des denrées de l'ensemble d'est en ouest en Syrie et de nord en sud, la M5 aussi, qui relie Alep à Damas en passant par Idlib. Aussi, or, il n'en a rien été, et à chaque fois, prétexte derrière prétexte, Erdogan prétendant se battre contre les terroristes de Qassad, mais en fait, ce n'est qu'un prétexte fallacieux, parce qu'on voit que Qassad coopère aussi avec la Turquie dans le vol et le pillage du pétrole syrien, qui transite par la Turquie d'ailleurs, à travers la base américaine d'El-Shedadi, qui est en Irak, mais sur des convois américains, mais qui transitent par la Turquie et qui vont être dans la poche de monsieur le fils d'Erdogan, qui en fait les vend pour son vent, c'est le blé et le pétrole pour son compte et pour alimenter les terroristes en armes et en munitions. Donc là, c'est vraiment un prétexte fallacieux. Or, la position de l'État syrien et de la Russie, c'est que la meilleure manière de protéger effectivement les frontières turques des Kurdes, c'est d'une part qu'ils cessent justement d'alimenter les terroristes de tous les côtés. D'un côté, de l'autre côté, la meilleure solution, c'est le déploiement de l'armée arabe syrienne sur les frontières syriennes avec la Turquie. C'est ça qui permettrait qu'il n'y ait pas d'agression, si agression il y a, de la part de Qassad. Or, les Kurdes que Erdogan prétend combattre sont les alliés inconditionnels des États-Unis. C'est oui, FDS, absolument. Les forces dites démocratiques, dites syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes, d'ailleurs, qui sont dirigées par des Kurdes importés de l'extérieur et qui sont complètement inféodés aux Américains, donc importés de Wadi Qandil, et en fait complètement sous les ordres des Américains, et qui sont aussi les alliés de la Turquie, Obligatoirement. Oui. Je tiens quand même à signaler que récemment, il y a eu des accords entre Qassad et HTS, là, la Hayat Tahrir al-Sham, qui, pour la création d'une raffinerie aux frontières de la Turquie, du pétrole qui est volé en Syrie et en Irak d'ailleurs, pour être raffiné dans cette raffinerie et, dont la, et qui vont être aussi, qui vont servir au. Qui va servir aux forces terroristes. D'accord. Qui sont soutenues par la Turquie.
Absolument.
En fait, tous ces prétextes sont fallacieux et on est, je suis complètement ravi que, effectivement, l'armée arabe syrienne commence à attaquer effectivement ces bases turques qui sont déployées et que maintenant, aussi, je voudrais dire aussi qu'il y a eu des attaques contre. Des cellules terroristes du sud en fait qui ont à Al-Tanf qui sont aussi entraînées dirigées par les Américains dans leur base qui est au sud de la Syrie la base de Al-Tanf et qui est sur les routes de passage entre la Syrie la Jordanie et l'Irak.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, Madame Midani donc nous a expliqué amplement donc, la situation en Syrie et la Turquie. Et bien sûr, la Turquie a abusé de la méfiance, plutôt de la patience de Assad ces dernières années et pour prendre des positions dans le pays. Mais cette fois, Assad on en a assez de la situation. Et jusqu'où? Voilà ma question. Jusqu'où ces offensives vont poursuivre?
Moi, je pense évidemment que le départ des forces étrangères de Syrie, elle commence par les forces turques, puisqu'on s'attaque toujours à l'impérialisme dans son ventre mou, et que la position turque est évidemment le ventre mou de l'impérialisme en Syrie. À la suite du départ des Turcs, suivront les Américains et les Français. Mais la duplicité d'Erdogan, elle éclate dans tous les dossiers. Tout d'abord, il y a dans le dossier kurde, puisqu'il combat le PKK, mais il a d'excellents rapports avec la région autonome turque d'Irak et avec les Barzani. Elle éclate en Libye, puisqu'il prétend aider les régimes souverainistes arabes, mais en même temps, il a importé les djihadistes, les tafkiristes syriens dans tout le Sahel. Elle éclate évidemment en Azerbaïdjan puisqu'il prétend avoir de bons rapports avec la Turquie, mais qu'il attaque l'Arménie et le Haut-Karabakh. Elle éclate en Turquie puisqu'il fait le grand écart entre Zelensky et Poutine. Et elle éclate évidemment dans tous les domaines. C'est une position tout à fait qui s'incarne dans ce qu'on appelle en français la duplicité levantine héritée de l'Empire turc. Erdogan est évidemment un personnage sur lequel on ne peut fondre aucune politique de confiance. Et actuellement, évidemment, Poutine regarde ça de très loin. Il fait semblant de croire à l'amitié de la Turquie. Mais il faut quand même rappeler qu'au moment où la Turquie se dit l'ami de Poutine, c'est quand même la deuxième armée de l'OTAN. Et c'est sur le territoire de Turquie qu'est la principale base logistique qui permet aux Américains de se projeter en Syrie, en Irak ou encore en Afghanistan, à Irtyglik. C'est donc une position évidemment qui n'est pas tenable et sur laquelle on ne peut accorder aucune confiance à la Turquie.
Monsieur Luc Michel, la Turquie ne va tout de même pas renoncer à ses positions si névralgiques, comme vous dites?
Écoutez, ces positions, ce sont des positions opportunistes qui sont basées sur des grands écarts et sur des coups de poker géopolitiques. La Turquie en a retiré évidemment des positions, ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la reconstitution d'une sphère d'influence qui rappelle l'Empire ottoman. C'est le cas en Asie centrale, c'est le cas en mer Noire, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Syrie et c'est le cas en Irak. Mais évidemment, à vouloir développer des positions opportunistes dans tous les domaines, on finira par se fâcher avec tout le monde. Même vis-à-vis des alliés américains, évidemment. Il y a une politique de chantage qui ne pourra pas durer. C'est la même chose vis-à-vis de la Russie. Je crois que tout cela finira par une catastrophe à un moment donné. D'autant plus que la Turquie actuellement est dans de grands troubles géopolitiques et économiques.
Oui, absolument. Aïssa Armidani, Monsieur Luc Michel a parlé de la Turquie qui essaye de contenter tout le monde, une politique basée sur le bluff, bien sûr, qui mènera à rien. Que pensez-vous, pour terminer?
En fait, à mon avis, ce n'est pas essayer de contenter tout le monde, mais c'est tirer profit de toutes les situations en faisant chanter tout le monde. Et c'est vraiment, il tire un grand profit de la position stratégique, effectivement géographique, de la Turquie. D'une part, que le fait que la Russie a besoin de la Turquie pour pouvoir passer à la fois son gaz, son pétrole et même les céréales à travers la mer Noire, il y a quand même une position objective importante de la Turquie. Objectif géographique, j'entends. Donc, il y a cet aspect. Il y a aussi un grand échange commercial et autre entre la Russie et la Turquie, d'une part. D'autre part aussi, c'est la porte de l'Occident, je dirais, vers l'Orient, parce que géographiquement, l'Europe a besoin aussi, l'Europe et les États-Unis ont besoin de la Turquie pour l'accès à cette région, accès même à la Méditerranée. Donc, c'est aussi, il tire profit de tous les, il fait, comme on dit en français, il fait feu de tout bois. Il intervient effectivement, il est ami avec Israël et il prétend soutenir la résistance palestinienne. Il est un peu partout avec l'ami et l'ennemi de chacun. Mais je pense que effectivement, là, cette position, elle est supportable. Par une situation qui est, parce que nous sommes dans une situation mondialement, dans une situation internationale qui est une situation charnière où il y a l'écroulement du monde occidental, il y a le démarrage d'un monde multipolaire. Il pourra jouer encore un tout petit peu de cette position. Mais une fois les choses sont tranchées, je crois qu'il ne pourra plus et son jeu sera complètement découvert. Les pays avec lesquels il est ami, ils lui demanderont vraiment d'avoir une position tranchée, choisir son camp et prendre les mesures qu'il faut. Surtout, par exemple, en Syrie, il est très important quand même qu'il y ait objectivement. C'est dans l'intérêt du peuple turc, d'ailleurs, que les relations soient bonnes avec le peuple syrien. Mais lui, il a des velléités dominatrices et des velléités impérialistes. Son peuple ne lui pardonnera pas aussi cette crise et d'avoir introduit énormément de terroristes en Turquie, d'avoir provoqué des crises économiques, d'avoir provoqué tout un tas de choses. Et surtout un grand problème de sécurité à l'intérieur du pays. Donc, en fait, il sera aussi sanctionné par son peuple, à mon avis.
Absolument.
Et par tous les peuples voisins qui le pratiquent. Parce que nous, Syriens, on n'a rien contre le peuple turc, mais on est très content aussi de pouvoir échanger avec lui. Mais d'un autre côté, avec un dirigeant comme ça qui gâche tout et qui casse tout, c'est impensable.
Aïssa, voilà. Oui. Bon, notre temps est terminé. Aïssa Armidani, experte franco-syrienne depuis Damas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à
monsieur
Luc
vous.
Michel.
Merci.
Oui, un grand merci à monsieur Luc Michel, géopoliticien qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Okay. Au revoir à tous.
Merci à vous.
Au revoir.
les médias dominants occidentaux au service du Capitole. L'Occident moderne a été construit autour d'une société capitaliste de consommation dans laquelle les citoyens sont soumis, dès leur naissance, à des manipulations psychologiques de masse sous forme de publicité et de RP et conditionnés à accepter cela comme faisant partie intégrante du tissu social. La propagande occidentale a ses racines dans la publicité, le marketing et les relations publiques. RP n'est qu'un mot poli pour la propagande. Il a été inventé par Edward Bernays après la Première Guerre mondiale. Ce terme a été chargé de connotations négatives. Pour que les messages de propagande soient efficaces, ils doivent être répétés souvent, très souvent, avant d'être inconsciemment acceptés par les masses. L'ère d'Internet, avec ses appareils numériques personnels omniprésents, ses communications instantanées et ses réseaux mondiaux d'information et de divertissement, a rendu cela beaucoup, beaucoup plus facile et a rendu les Occidentaux encore plus sensibles à la manipulation psychologique. Un exemple extrêmement simplifié. Un enfant jouant à la série Call of Duty Modern Warfare ne se demande pas pourquoi les méchants des jeux sont majoritairement des Arabes et des Russes, ou encore pourquoi le monde, en dehors des États-Unis, Royaume-Uni, est décrit comme bouffon, arriéré et dangereux. Oubliez les systèmes d'armes ou la liberté, c'est l'influence psychologique de masse qui compte et où l'Occident brille et n'a pas d'égal. La propagande est plus efficace lorsqu'elle est indirecte et ancrée dans la vie quotidienne. L'Occident contrôle pratiquement le système mondial des médias d'information et peut facilement diffuser ses virus mentaux dans le monde entier. Mais avec d'autres pays qui lancent leurs propres médias et réseaux d'information, son influence s'amenuise. D'où la panique en Occident face à la désinformation et à l'ingérence. On se demande combien de temps les Occidentaux accepteront la ligne « c'est la faute de la Chine » et « ou de la Russie, comme une explication pour expliquer pourquoi les choses continuent de s'effondrer et pourquoi les dirigeants occidentaux n'assument jamais la responsabilité de leur raté mémorable. Les médias produisent et commercialisent une marchandise singulière, l'information. Celle-ci doit rapporter revenus et profits aux multinationales des communications. La corporation des médias œuvre dans cette superstructure et sa fonction consiste à réguler le fonctionnement de ce système d'endoctrinement idéologique. Il s'agit, pour ces scripts de l'information, de formater l'opinion publique citoyenne afin d'assurer sa soumission pour tenter de désamorcer les récriminations politiques et annihiler les velléités subversives populaires. S'il faut faire la démonstration de la dévotion servile des grands médias occidentaux, en particulier français, témoigner aux puissants et à l'État, le traitement informationnel du mouvement des Gilets jaunes de France aura été la parfaite illustration. Cette dévotion journalistique s'était vérifiée à la faveur de la pandémie de COVID-19, politiquement instrumentalisée, où tous les médias mainstream, ces supplétifs idéologiques du capital, avait assumé cette fonction de manipulation mentale sans subir aucune pression sur leur chaîne professionnelle, ligotant ordinairement leur liberté d'expression complaisamment surveillée et musclée. De toute évidence, cette posture obséquieuse des médias mainstream révèle l'asservissement total des appareils idéologiques au capital. Depuis l'école, en passant par le cinéma et la littérature, jusqu'aux médias audiovisuels, Internet et les médias sociaux numériques, tous ces appareils idéologiques de façonnement des esprits sont totalement monopolisés par le capital pour lui servir d'instrument de propagande. En Occident, la majorité des médias est la propriété d'un petit nombre de grands groupes financiers.
la corporation médiatique, secte attriste et vote de l'idéologie de la liberté d'information, a tendance à expliquer le dévoiement et la soumission des plus mutifs journalistiques par la concentration des entreprises médiatiques. 10 milliardaires ont pris le contrôle d'une grande partie des médias français. Ces oligarques venus du BTP, de l'armement, de l'industrie du luxe et de la téléphonie ont accaparé les grands quotidiens nationaux, les chaînes de télévision et les radios pour asseoir leur influence, avec à la clé conflits d'intérêts, censure, pression, licenciement, ingérence malsaine. Cette concentration des moyens de production de l'information entre les mains de quelques-uns met en péril l'indépendance de la presse et porte ainsi atteinte au fonctionnement démocratique. Comment garantir la liberté de l'information et le pluralisme de la presse? Ce n'est pas la monopolisation des médias par quelques groupes capitalistes qui expliquerait l'aplaventurisme légendaire des obséquieux journaleux des médias mainstream. De fait, les médias opèrent ouvertement comme des organes du pouvoir financier et de l'État capitaliste. Il faut préciser que l'affairement servile des officiants médiatiques n'est pas télécommandé d'un nom, depuis le propriétaire milliardaire ou étatique jusqu'au banal chef de service journalistique. Il est l'œuvre de clercs totalement acquis à la défense de l'ordre existant dominant. Pour décrocher un emploi dans ces grandes entreprises de fabrication de la marchandise informationnelle, maquignonnée et corrompue, ne serait-ce que comme pigiste, il faut avoir le profil de l'emploi. Posséder la foi démocratique capitaliste, chevillée au corps, prosternée, croire aux mascarades électorales, partager les valeurs bourgeoises libérales et impérialistes, être pétri de la fibre patriotique occidentale belliciste. En résumé, avoir une personnalité servile et une âme vile. Aussi, assurer de recruter des agents formatés selon ces valeurs dominantes libérales bourgeoises, quel besoin le milliardaire, l'État, propriétaire de médias, aurait-il de manœuvrer ses valets journalistiques? Ils lui sont instinctivement dévoués, souvent avec un zèle fanatique, comme l'illustre actuellement le traitement de l'information de la pandémie et de la guerre en Ukraine. On se rappelle qu'à l'époque de l'URSS, les pays frères d'Europe de l'Est étaient qualifiés de satellites du Kremlin. Or, de nos jours, les pays occidentaux atlantistes peuvent être, à leur tour, avec leur subordination vilement assumée, de pays satellites de Washington. Avec leur suivisme obséquieux, les journalistes occidentaux, notamment européens, métamorphosés en supplétifs propagandistes de l'OTAN, versent dans un aplaventurisme professionnel indécent. En effet, devant le narratif informationnel propagandiste et belliciste fabriqué par les États-Unis, tous les journalistes occidentaux s'inclinent servilement pour le relayer avec obséquiosité. La ligne éditoriale occidentale est dictée par Washington. Aujourd'hui, inclination éditoriale illustrée notamment lors de la pandémie, confirmée avec la guerre en Ukraine, tous les médias européens s'alignent sans discussion ni distanciation sur le narratif politique, diplomatique et économique des États-Unis. Les pays occidentaux ne cessent de répéter à l'envi de ne pas participer à la guerre en Ukraine. Or, à observer leur implication dans le traitement de l'information rapportée avec un parti pris partisan et belliciste, on croirait qu'il s'agit de leur guerre. L'information en Occident s'est métamorphosée en arme de propagande au service de la guerre impérialiste orchestrée et attisée par les États-Unis et l'OTAN, leurs bras armés.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/
Turkish.com/fr. Pars Today est active essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Thank you.